Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ah ben, ça, votre santé, bonjour et bienvenue. On a sauvé le docteur de labo de l'exercice incendie, docteur de labo. Asseyez-vous, voilà.
Ouais. Non, j'ai pas été sauvé de l'exercice incendie. J'ai pas eu besoin d'être expatrié d'urgence dans un grand sac qu'on balance de la fenêtre. De toute façon, aujourd'hui est un beau jour. Je suis arrivé ici à Beurre FM.
Comme une princesse.
Écoutez-moi claquer des doigts. Ouais. En Uberbus.
En Uberbus.
Alors, c'est quoi un Uberbus?
C'est quoi un Uberbus?
C'est un bus où il y a Idriss, qui est devenu un copain, et qui m'a dit « Oh, Doc, vous êtes là, très bien !» Bon, allez, on va vous faire un Uberbus. Et c'est le mot d'Idriss que je trouve excellent. Alors, un Uberbus, bah, c'est un bus qui vous pose devant la porte de l'endroit où vous travaillez, tout simplement.
C'est-à-dire que c'est pas forcément un abribus, on vous met
non,
devant votre bureau.
Non, c'est un Uberbus. Ouais. Et alors, là où c'est bon, c'est que comme il y avait un exercice d'alerte, tout le monde était dans le parc et tout le monde m'a vu arriver en bus, descendre du bus.
Ils ont dit, vous avez vu, le pauvre monsieur Pépé, il est tellement vieux qu'on le dépose devant son bureau pour pas qu'il ait à marcher.
C'est cela. Dis ça. Non, mais l'écoutez pas, Idriss. Vous avez vu comme il est désagréable. Je vous avais dit qu'il était désagréable.
Comment ça va, docteur de labo?
Ben, ça va bien, mon ami. Ça va.
Bon, on vous attend. Il y a du boulot. On va parler des contre-indications à jeûner. On fera votre semaine santé tout à l'heure parce que compte tenu de l'exercice incendie.
Oui.
On n'est pas dans les...
C'est un petit peu tout foutu par terre.
Voilà. Oui. On est un tout petit peu décalé, on va dire. Bon. Docteur de labo, c'est parfois difficile de faire entendre raison à ceux qui veulent pratiquer le jeûne. En cas de contre-indication et qui vraiment veulent, malgré les contre-indications de leur médecin, continuer à jeûner. Alors, quelles sont les contre-indications médicales absolues, c'est-à-dire que c'est même pas négociable à la pratique du jeûne pendant le mois du Ramadan?
En été, et je précise bien en été, la contre-indication absolue, c'est le diabète insulino-dépendant. C'est également l'insuffisance rénale chronique. Et c'est également la prise obligatoire de médicaments toutes les 8 heures.
D'accord.
Donc, on ne peut pas faire autrement.
Donc, ça, ce sont les prises de médicaments qui ont des marges thérapeutiques étroites, comme on les appelle.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire cette prise de médicaments, on va pouvoir, je conseille dans ces cas-là, en tant que médecin, bien sûr, de décaler le ramadan et de le mettre en hiver ou en automne, à la fin de l'automne, quand il y a 8 heures de jour et... 24-8, 16h.
Ah oui, vous vous dites qu'en fait, alors c'est une fatwa, c'est-à-dire de dire que il faudrait mieux donc rattraper les jours dans des périodes où le...
Bah, où c'est faisable.
Ouais.
Bah, c'est plus intelligent à mon avis. Parce que si tu veux payer le fait qu'on ne le fait pas, c'est un peu une punition pour quelqu'un qui n'y est pour rien, quelqu'un qui n'a pas envie de le faire et qui va payer, je trouve ça normal. Mais quelqu'un qui n'y est pour rien et qui, le pauvre ou la pauvre, ne peut pas faire autrement, je pense que c'est mieux intellectuellement pour eux.
Oui, on va négocier avec l'imam pour voir finalement...
Non,
si
mais j'en ai parlé à l'imam qui trouve que j'ai tout à fait raison.
Bien. On va quand même négocier avec lui.
On négociera avec l'imam.
Non, quand je dis négocier, c'est pour savoir si d'un point de vue religieux, ça passe, votre histoire.
Bah, c'est ce que m'a dit l'imam.
Bon.
Il m'a dit, dans
un cas de force majeure... Il le dit à l'antenne, parce que vous n'êtes pas imam. Moi, je dis toujours à l'imam, parlez pas de médecine, c'est pas médecin.
Pourtant, ça le tente. Hein.
Oui. Donc, vous, si vous voulez bien, docteur de labo...
Je ne parle pas à la place de l'imam.
Voilà.
Non, d'ailleurs...
Laissons valider...
J'en ai aucunement l'intention.
Ces possibilités de rattrapage par l'imam Abdelali Mamoun ou par un imam qui pourra nous dire effectivement si c'est possible. Bon, ça, ce sont des contre-indications majeures. Les personnes qui sont cardiaques, par exemple, ou qui font de la tension.
Ben, ça dépend du rythme du traitement, justement. C'est ce que je te disais. C'est une question de prise de médicaments. Si quelqu'un a un traitement... par exemple, quelqu'un... qui a un traitement qui est une fois par 24 heures, ça change rien du tout. Quelqu'un qui a... Alors, attention cependant. Quelqu'un qui a un diabète insulino-dépendant et qui a la chance de pouvoir être sous lentus, qui est une molécule tout à fait particulière, ne va pas pouvoir non plus. Parce qu'il n'y aura pas suffisamment de rythme d'aliment derrière sa lentus. La lentus, c'est l'insuline qui tient le coup sur 24 heures, si tu veux. Mais tu ne peux pas te permettre, la lentus ne permet de tenir le coup sur 24 heures que parce qu'on va manger dans la matinée, le midi et dans la soirée. S'il n'y a qu'un tout petit moment où on peut manger, là on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a un moment où on va faire une hypoglycémie mortelle. Hein. Ça, c'est...
Micro, voilà, on a eu une coupure de micro, docteur Delabo. Donc, alors, entre-temps, pendant la coupure de micro, l'imam Abdelali Mamoun me confirme que vous avez 1 million de fois raison.
Ah, ça c'est gentil.
Donc on en reparlera
bonjour,
ce
Ali.
Soir. Il le dit, hein, 1 million de fois raison.
Mais on en avait parlé avec Ali.
C'est intéressant. On devrait d'ailleurs croiser un petit peu les.
Bien sûr.
On devrait un petit peu croiser les réponses à la fois médicales et.
Je te signale que tu as une petite mémoire parce qu'on a fait ça déjà une année avec Ali Mamoun et j'en garde un excellent souvenir et je crois lui aussi.
Oui, mais ce n'était pas sur cette question-là peut-être. Mais non, mais alors, les croiser parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions de santé qui arrivent et les gens ne veulent pas entendre raison souvent. Et ils veulent quand même jeûner. En dépit d'une contre-indication médicale qui a été signifiée par le médecin.
C'est pour ça que je suggère qu'au lieu de se priver de son ramadan, on le décale pour des raisons de santé. Voilà pourquoi je propose ça.
Bon, on a vu les contre-indications médicales aux jeunes, donc majeures, absolues.
Oui, absolues.
Il y en a d'autres.
Bon, il y a des contre-indications, si tu veux, d'une femme enceinte en début de grossesse. Le ramadan d'été, il est trop court. La rupture du jeûne est trop courte.
Entre 1 et 3 mois, c'est ça ?
Oh, jusqu'à 5 mois. Hein. Jusqu'à 5 mois, c'est pas prudent.
C'est pas prudent.
Jusqu'à 3 mois, c'est interdit. Et de 3 mois à 5 mois, c'est pas très prudent. L'été, mais uniquement l'été. Mais même.
Parce que c'est la durée du jeûne qui fait que c'est pas prudent.
C'est la durée de la déshydratation qui risque d'être mortelle pour le fœtus. Donc il faut pas.
D'accord.
On fait pas courir de risque à son fœtus.
Là aussi, on a énormément de questions. Hein,
oui, bien sûr.
Qui reviennent. Hein,
alors, quelquefois, je sais bien, j'ai des jeunes femmes qui m'interrogent en tant que médecin avant le ramadan. Moi aussi, je suis assailli de questions, tu penses bien. Et une question à laquelle j'ai répondu sans appel, c'était « Oh, mais docteur, je l'ai déjà fait, ça allait très bien alors que j'étais enceinte. » J'ai dit « Vous avez fait courir un risque énorme à votre bébé. Ne recommencez pas parce que vous n'aurez pas de la chance à chaque fois. » C'est tout.
Les personnes âgées, alors également, quels sont les risques qui sont liés aux personnes âgées ?
Alors, en principe, une personne âgée, ce qu'on entend par âgée, ça m'amuse un peu, parce qu'une personne âgée, c'est plus de 70 ans, j'en ai 76, et je me trouve pas vieux du tout. Mais enfin, ceci est une autre histoire.
Oui, mais c'est parce que vous avez la vue qui baisse.
Et tu sais que je t'emmerde.
Ah, mais vous savez
on ne dit pas de gros
que
mots.
Pendant le mois de ramadan, vous n'avez pas le droit de dire encore moins de gros mots que d'habitude.
Ah, t'es content, là. Hein
ah, ouais, là, je
peux pas me lâcher.
Non.
Donc, toutes mes excuses à tous et à toutes,
bon.
Je le ferai plus.
On coupera en montage.
Au coup. Sacré Philippe. Non, en fait, j'ai oublié.
Donc, les personnes âgées, pourquoi ?
Les personnes âgées. Eh bien, les personnes âgées se déshydratent comme les enfants beaucoup plus vite. Donc, commençons par le commencement de la chaîne. Les petits, jusqu'à 11, 12, 13 ans, c'est vraiment pas prudent. C'est pas à faire de leur faire un jeûne. Une déshydratation, ça arrive très, très vite. Et la déshydratation, ça prévient pas. Et quelquefois, il faut aller très vite pour la combattre. C'est le problème des très jeunes enfants et des vieillards. La façon de savoir si on est déshydraté ou si une personne âgée ou un enfant est déshydraté, c'est tout simplement de pincer délicatement la peau du bras. Ou la peau revient toute seule et il n'y a pas de souci, ou la peau reste apparente, ça fait un pli qui reste, et ça veut dire qu'on est en état de déshydratation et qu'il y a urgence, qu'il faut réhydrater immédiatement. Alors, c'est ce que je dis aux gens âgés, et c'est ce que je dis aux parents, si vous voyez que votre enfant, mais il faut qu'il ait, à mon avis, au moins 11, 12, 13 ans, suivant la précocité de l'enfant, ça dépend. T'as des enfants qui sont plus grands, plus costauds, plus solides que les autres. Un enfant de 11 ans, j'ai vu l'autre jour un gamin de 12 ans qui faisait 1m70. Ben oui, j'étais un peu effaré aussi. Ben lui, il fait une provision d'eau pour la journée, il n'y a pas de souci. Hein. Il a un corps qui est déjà un corps étonnamment adulte et il peut résister. Mais un enfant qui fait 1m20 ou 1m30, il ne peut pas faire sa provision d'eau pour la journée. Il ne peut pas. Il n'a pas de quoi stocker la flotte en quantité suffisante. Donc, il faut éviter. Quelqu'un d'âgé, c'est pareil. Quelqu'un d'âgé qui a terriblement maigri, on voit des gens très maigres. Eh bien, ceux-là, il ne faut surtout pas qu'ils fassent le ramadan de l'été. Quitte à le décaler, parce qu'ils vont se déshydrater dans la journée, et c'est dramatique, ça peut provoquer un accident cérébral vasculaire irréversible. Alors, bon, on va quand même pas faire courir des risques.
Le fait d'être déshydraté, c'est ça?
Bah oui, ça s'arrête. La circulation du sang, c'est un flux permanent. C'est comme quand tu vois couler la Seine, qu'on voit d'ici. Si ça s'arrête de couler, c'est foutu, il n'y a plus de bateau. Hein. Donc, là, il y a plus d'oxygénation. Et s'il n'y a plus d'oxygénation, eh bien, c'est la mort annoncée.
Et pour les adultes, hein,
une personne de mon âge, 76 ans ou même plus âgée, qui va faire un ramadan très très bien la nuit, qui va respecter exactement tout ce que je vous conseille à tous et à toutes de boire et de manger pendant la nuit, il se peut très bien qu'il tienne le coup toute la journée, à condition, et comme il est âgé, il fait ce qu'il veut, de rester absolument, obligatoirement à la maison, à l'abri, dans l'ombre, dans la pénombre, et avec soit une clim, c'est l'idéal, soit une ventilation permanente, comme on sait très bien le faire au Maghreb d'ailleurs, en créant un courant d'air qui permet de gérer. Attention, pas trop de courant d'air, parce que ça provoque une sécheresse de la peau, le corps est obligé de réagir, il ne faut donc pas créer des courants d'air, ce n'est pas forcément la bonne idée.
Pour les personnes, alors les adultes, comment est-ce qu'on peut savoir si on est déshydraté ou pas? Parce qu'on peut avoir soif, mais le fait d'avoir soif, ça ne veut pas dire qu'on est déshydraté.
Alors, si, on a la langue, quand on a la langue qui s'épaissit, quand on a du mal à parler parce qu'on a la langue toute racramée, il n'y a pas de doute. Tu sais, chez les gens très très âgés, je suis gériatre et en fin de vie, les gens ont quelquefois ce qu'on appelle la langue de perroquet, c'est-à-dire que la langue devient toute bizarre, elle est toute cornée, ils sont en déshydratation suraiguë. Bon, mais ça, Dieu merci, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, ni aux uns ni aux autres. Mais vous faites le pli sur le bras pour voir si vous voyez vraiment que la peau reste là. Et puis si vous avez une impression de malaise, désolé, mais il faut à ce moment-là, il faut faire quelque chose.
Mais alors quoi? Parce que quels sont les signaux? Parce que après, les gens ne savent pas forcément quels sont les signaux qui sont graves ou pas graves.
Ben, le signal, c'est une sensation d'abord des maux de tête, important. Si vous avez mal à la tête pendant le ramadan, retenez la leçon et la nuit suivante, buvez suffisamment. Si vous avez mal à la tête dans la journée, il y a 900 sur 10 pour que ce soit à cause d'une mauvaise hydratation. Je voyais Driss tout à l'heure, qui travaille dans la matinée. Eh bien, il était 11h, 11h15, mais Driss, il pétait le feu, il est dans une forme éblouissante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a conduit jusque-là, tellement il était content. Et il m'a dit, Doc, c'est formidable, mais ce qui est dramatique, c'est que mes copains, il y en a qui ne comprennent pas. Mais ils me disent tous, mais comment tu fais? Mais j'ai dit, mais bon sang, vous avez qu'à l'écouter. Ah, il m'a fait une pub d'enfer. La RATP connaît le doc.
C'est pas comme la SNCF, mais ça, c'est un autre sujet.
Si, mais parce que j'étais autrefois, j'étais président de syndicat. Et donc la SNCF me connaît aussi.
Bon, donc le mal de tête, c'est pas forcément un signe de déshydratation.
Pas forcément, mais
ça peut être aussi un signe de détoxification, comme
on dit. Non, pendant le ramadan, c'est pratiquement toujours un signe de déshydratation. Parce que c'est le premier signe, si tu veux, la première cause qui peut venir à l'esprit, c'est la déshydratation. Et si les maux de tête surtout arrivent en fin de journée, là on peut être sûr que c'est une déshydratation. Si tu as mal à la tête dès que tu as mangé, c'est plutôt ton foie. Si tu manges le matin une omelette de 6 œufs avant la reprise du jeûne et qu'après tu as mal à la tête, c'est ton foie qui n'a pas trop aimé de manger trop quantité d'œufs à la fois. Tu sais ce qu'il mange le matin, Driss?
Non.
300 grammes de cœur de bœuf. Assiette à soupe de chorba.
Ouais.
Un demi camembert. Et il complète. Alors, il avait complété avec des céréales. Je dis non, faites attention parce que dans vos céréales, vous avez des sucres rapides. Ça, c'est pas la bonne idée.
Mais il se recouche pas. Il va travailler tout de suite après.
Bah, il bosse après. La chance qu'il a.
Voilà. Donc, ça, c'est bien parce qu'il est, parfaitement coordonné.
Il est du matin.
Ben oui.
Alors si, il commence pas...
Parce que si vous devez vous endormir 2 ou 3 heures dessus...
Oui, si, il commence pas à 4 heures, il commence à 7 heures, je crois. Et il me dit, je peux pas dormir entre les deux.
Non.
Je dis, mais je lui ai répondu, mais on s'en fout. Parce que comme vous avez une durée de travail de 10 heures, vous allez, au bout de 10 heures, aller vous coucher. Mais il me dit, oui, mais je suis tellement en forme que j'arrive pas à dormir. Je lui dis, oui, mais n'allez pas me faire du sport, n'allez pas courir, hein, surtout. C'est pas parce que vous vous sentez en forme qu'il faut tricher et aller faire du sport. C'est dangereux.
Ah, on est une émission sur faire du sport pendant le mois du ramadan ce soir.
Eh bien, c'est intéressant. Et si tu veux, tu m'appelles. Je répondrai par téléphone.
Ah, bah, si vous êtes.
Si je suis pas pris en otage par Guylaine.
D'accord.
Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Elle a du mal à supporter ma suroccupation.
Ah oui.
Elle pense qu'à nos âges, je devrais être dans mon fauteuil.
Un petit fauteuil électrique.
Malheureusement, surtout au sien.
Un petit fauteuil électrique qui vous masserait.
Voilà, c'est ça.
En train de regarder Julien Courbet ou...
Ça, j'aimerais mieux mourir, tu vois, que de regarder Julien Courbet. Ça me barbe prodigieusement.
Je sais pas, ou les chiffres des lettres et toutes les émissions.
Ça, les chiffres des lettres, c'est très intéressant.
C'est bien. Vous avez quoi après Slam, non?
Hein?
Pour des gens comme vous, il y a Slam, non?
Les gens comme moi, ils te...
Bien. Vous posez des questions aux gens comme lui, le docteur de Labo, sur justement la chrononutrition du Ramadan. Comment passer un mois de jeûne en bonne santé? 01 53 48 3000. Le docteur de Labo répondra à vos questions dans un instant. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et avec le docteur Alain Delabo. Je rappelle, docteur Delabo, que vous avez écrit un livre, c'est le deuxième opus de vos aventures, c'est la chrononutrition pendant les mois de Ramadan d'été, qui est toujours en vente chez Albin Michel, donc bien utile, surtout en ce moment. Donc profitez-en maintenant, oui.
Bien sûr, opus qu'on trouve sur tous les marchés.
Oui, bien sûr.
Parce que... Les marchés opus. Il ne l'a pas vu venir non plus.
Ils sont bien, vos nouveaux auteurs, docteur Delabo.
Ah, tu ne l'as pas vu venir. Hein.
Rachid est là. Rachid, qu'on voit
bonjour,
venir.
Bonjour, Rachid.
Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, docteur. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Rachid.
Vous allez bien? Bon Ramadan.
Oui,
tout le monde.
Très bien, Rachid. Merci.
Bon Ramadan, Rachid.
Ok. Donc, je vous ai appelé donc, juste à savoir les conseils à prendre durant ce mois de Ramadan, s'il vous plaît. Quels conseils donc, à suivre? Je fais le jeûne, ça fait des années. Je pratique. Je fais beaucoup de sport. Et donc.
Vous faites du sport pendant le Ramadan?
Oui, ce matin j'ai fait. Franchement, j'ai fait hier.
À quelle heure?
La nuit. Moi, je fais très tôt le matin, 5h30, 6h.
Ouais, mais donc après la reprise du jeûne?
Oui. Oui, je suis endormi un petit peu vers 1h du matin.
Oui.
Je suis rentré, donc voilà, je suis levé vers 5h30.
Vous faites quel boulot vous faites?
Je travaille dans un magasin.
D'accord. De quelle heure à quelle heure?
De 10h à 20h.
De 10h à 20h.
Oui.
10h à 20h. Moi, je ferai mon sport pendant la rupture du jeûne. Hein, parce que, ou alors juste à la fin, avant la rupture. Ou mieux encore, rupture.
En fait, ce que moi, j'aime le faire le matin, parce que le matin, c'est bien pour la respiration, tout ça. Pour l'oxygène, la nature, donc ça fait du bien, j'ai l'habitude de le faire le matin.
Mais vous avez mangé avant?
Ouais, en fait, hier soir, je me dis franchement, j'ai mangé des olives dans la sauce avec du poulet, et j'ai mangé du fromage avec des conseils, un sandwich du fromage.
Ouais.
Je vais prendre un peu d'air pendant 1h, 2h, après j'arrive pas à manger. J'ai mangé un peu de dessert, après j'arrive pas à manger. C'est vraiment chargé.
Bah, c'est le premier jour hein, aussi. C'est vrai que les gens sont un peu... voilà, ils cherchent, ils se calent, là. Hein.
Oui, le premier jour, j'ai vu hier, des gens qui ont eu la chance de venir me voir hier, à qui j'ai expliqué comment il allait falloir qu'ils mangent le soir. Ça, c'est d'ailleurs... apparemment, ils m'ont dit, on vous enverra un petit texto. Je n'ai pas encore reçu de texto. Mais c'est important. Ce qu'il y a, c'est que si vous mangez pas suffisamment, vous maigrissez beaucoup pendant le Ramadan.
Pas vraiment. J'ai le même poids, 70 kilos. Donc voilà. Donc
vous mesurez combien?
1m72.
Oui, c'est un poids de sportif, 70 kilos par 1m72.
Ouais, ça fait longtemps que je fais de la course à pied.
D'accord. Donc, vous faites de la course à pied le matin?
La course à pied, oui, beaucoup. Donc voilà, j'arrive pas à arrêter. Donc
non, mais c'est pas ça. Si vous n'êtes, si vous voulez,
donc,
si vous faites votre course à pied de bonne heure, c'est-à-dire à l'heure où il fait frais,
oui,
vous ne risquez pas de suer. Vous allez pratiquement pas suer. Quand vous finissez votre course, vous êtes pas en sueur.
Pas vraiment. Donc j'ai l'habitude, pas vraiment. Ouais.
Voilà. Donc vous ne courez pas. Mais je vous explique ça. Je parle avec vous de ça pour que ceux qui n'ont pas la même habitude que vous comprennent qu'on peut pas faire n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que vous, je suis d'accord, dans la mesure où vous avez des années d'habitude, où vous êtes un sportif de bon niveau, où vous avez le poids qui correspond à un sportif, donc une bonne musculature, et vous êtes habitué, et quand vous courez, vous n'êtes pas ni essoufflé, parce que quand on est essoufflé, on dépense beaucoup d'air, et c'est gênant, ça fait perdre de la flotte, et vous n'êtes pas en sueur. Donc vous êtes le modèle type, si vous voulez, qui peut se permettre ce genre de fantaisie à condition d'avoir bu au moins 3 litres d'eau pendant la rupture du jeûne. Et le mieux, c'est pas tellement de l'eau, c'est de prendre, parce que vous ne me l'avez pas cité, ça manque, de ne pas prendre un potage extrêmement riche en sels minéraux, comme une chorba par exemple, ou comme un harira, ou comme des eaux minéralisées, très minéralisées, comme la badoua et la vichy, ce sont les deux eaux qu'on peut boire la nuit.
Oui.
Pendant le ramadan, ça, ce sont des précautions à prendre. Parce que ce que je ne veux pas, c'est que nous risquions, vous et moi, de faire courir des risques à des gens innocents qui vont s'amuser à aller galoper le matin alors qu'ils ne sont pas du tout capables de le faire. Exactement. Voilà pourquoi je prends des précautions. Mais ce n'est pas pour vous que je les prends, c'est pour les autres.
Oui, j'ai bien.
Voilà. Donc, dans votre cas, faites très attention. Si vous vous apercevez que vous commencez à être déshydraté quand vous faites ça, au bout de quelques jours, augmentez le plus possible votre quantité d'eau la nuit et augmentez la part de soupe, la part de potage, la part d'eau minérale bien minéralisée, les sportifs les connaissent, de façon à ne pas risquer dans la journée d'être
gêné. D'accord.
Voilà mon avis.
Et qu'est-ce qu'il faut manger donc à la rupture du jeûne? C'est la soupe, c'est mieux ou bien de manger pas autre chose?
Alors, la soupe, ça doit accompagner. D'abord, on peut prendre une soupe au moment de la rupture du jeûne. Comme vous aurez couru un peu le matin, dans votre cas, au moment de la rupture, l'idéal, c'est plutôt un potage, c'est-à-dire un bouillon. Un bouillon de viande ou un bouillon de légumes ou un potage aux légumes ou un potage pas les féculents à la rupture. Les féculents, il faudra les manger avant la reprise dans des potages et qui là seront extrêmement épais. Et puis, vous faites comme Driss qui m'a conduit tout à l'heure en bus, vous m'avez entendu le raconter, c'est une histoire très drôle, il est charmant d'ailleurs, Driss, il est super. Et bien le matin, j'expliquais à Philippe que Driss, il se tape 300 grammes de cœur de bœuf, un énorme bol de potage, il fait exactement ce que je conseille. Vous l'auriez vu à 11h30, il pète le feu, il est en pleine forme. Il est magnifique. Je l'ai félicité. Je lui ai dit merci, Driss. je passe des heures très très marrantes avec les conducteurs de bus, les chauffeurs de taxi. Je passe des heures très sympas.
D'accord. Et donc, ce que je voulais, juste une question, docteur.
Oui.
Je m'excuse.
Mais je vous en prie.
C'est pas bon de prendre l'avion le soir. Ce que j'ai entendu par rapport à ce que vous dites que c'est pas bon pour les reins, je sais pas.
Non, c'est pas bon pour les reins de prendre la viande le soir en dehors du ramadan. Mais c'est excellent de prendre de la viande avant la reprise du jeûne, si vous voulez. Votre repas principal, il est décalé. Mm-hmm. Il est situé avant la reprise, avant le moment où c'est fini, où on peut plus rien faire.
D'accord.
Et ça, plus ce moment sera tard, mieux ça vaudra.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie.
Et en fait, les petites sardines méditerranéennes.
Ah, ça c'est bon, ça. Ah bien sûr, vous faut les ajouter, mais c'est pour le plaisir.
D'accord.
Les ajouter pour le plaisir, puis vous les salez comme ça. ça vous allez avoir soif et vous pourrez boire abondamment pour pouvoir. Alors les petites sardines, mangez-les si vous voulez à la rupture, au moment de la rupture, dans l'heure qui suit la rupture.
Au retour.
Parce que comme ça nourrit pas beaucoup, c'est délicieux. C'est d'ailleurs ce que je propose dans le ramadan de l'été. Je propose le soir, à la rupture, essentiellement des poissons. Parce que c'est agréable, ça fait plaisir et ça nourrit pas trop.
Ouais, d'accord. Je vous remercie pour tous les conseils. Donc,
je vous en prie.
Donc, il y a 2 ans que j'ai arrêté de plus boire des produits laitiers.
Bien. Avouez que ça.
La pêche, voilà.
Voilà, c'est parfait. Vous m'envoyez ravi.
Bon, ce soir, Rachid, dans l'émission Ramadan & Co, on parlera.
Philippe, je te remercie pour ce que vous faites pour Beurre FM, pour tous les auditeurs. Continuez comme ça.
Je vous donne rendez-vous ce soir. Rachid, on fait une émission sur le sport, de la pratique du sport pendant le mois de Ramadan. Comment optimiser sa pratique du sport? Donc, si vous voulez être avec nous entre 19 et 20 heures, vous êtes le bienvenu, Rachid.
Ok. Allez, merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir, Rachid.
Mehdi est avec nous. Mehdi.
Allô.
Oui, Mehdi, bienvenue, bon ramadan.
Salam alaikum à tous, merci à vous aussi.
Alaykoum salam.
Bonjour monsieur docteur Delabeau, j'aime bien
bonjour.
Vous écouter.
C'est gentil,
Mehdi. Des bons conseils au niveau de la diététique, c'est très bien. Donc en fait, je voulais vous poser une question. Donc par rapport à cette période, comment on pourrait faire par rapport aux personnes qui veulent soit perdre du poids ou soit pas en perdre, mais de rester, on va dire, parce qu'il y en a, c'est vrai que cette période, ils se goinfrent, ils se gavent, il y a des envies qui arrivent le soir, donc c'est vrai que c'est des fois ça peut être un peu compliqué. Donc j'aimerais savoir un peu le repas, de, on va dire, convenable pour rester soit dans sa ligne si on est une personne
alignée,
normale, qui est sportive, voilà, alignée, ou une personne qui a envie un peu de perdre du poids pendant cette période sans avoir des carences sur le long terme, quoi.
Oui. Alors, la meilleure solution, et que j'explique toujours pendant le ramadan, c'est ne surtout pas chercher à prendre ou à perdre du poids, c'est pas la peine. Parce que c'est un mois particulier, et la nourriture que je donne doit être destinée à tenir le coup pendant 22 heures, ou 18 heures, là, ou 18 heures, ou presque 20 heures, je crois. Donc, il est évident qu'il va falloir donner une alimentation...
17h30.
17h30.
Voilà, pour être
d'accord.
Précis, 32.
C'est pas trop méchant. Ça pourrait être pire. Et dans la mesure, si vous voulez, où le besoin primordial, c'est il faut que je me nourrisse et que je boive suffisamment pour n'avoir ni faim ni soif, et surtout pas soif, pendant la période du jeûne. C'est ça l'important. L'important, c'est de veiller à ce que votre corps se maintienne en bon état. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la plupart des gens trop gros qui suivent le ramadan en respectant absolument les principes de la chrononutrition perdent quelquefois jusqu'à 4, 5, 6, voire même 7 kilos. J'ai pas mal de patients obèses venus me consulter pour mincir, et puis arrivé à la période du ramadan, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Je lui dis, ben voilà, vous avez le programme du ramadan d'été, vous le suivez, vous le faites absolument, c'était l'année dernière, et vous verrez, on se voit après le ramadan. Et le gars s'amène, il était tout ravi, il avait perdu 5 kilos pendant le ramadan, sans faire et sans se rendre compte qu'il perdait du poids. Donc, l'idéal pendant cette période-là, c'est de manger exactement à la mesure de votre appétit. Si vous êtes mince ou trop mince, vous allez grossir, et si vous êtes trop gros, vous allez mincir. Mais ôtez-vous de l'idée, et je le dis pour vous et tous ceux et celles qui nous écoutent, surtout ôtez-vous de l'idée de vouloir mincir ou grossir. Parce que ça, c'est pas une bonne idée. Contentez-vous de manger exactement comme je vous le conseille, et alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que si je suis gros, je maigris, si je suis maigre, je grossis? Parce que je vous ai donné exactement les quantités qui conviennent pour votre corps soit en parfait équilibre. Donc, il s'équilibre. S'il a besoin de mincir, il va mincir. S'il a besoin de grossir, il grossit.
Non, mais il y a des trucs, docteur Delabeau. Par exemple, il ne faut pas manger sucré le matin.
Alors, il y a des trucs. Pour ne pas fausser la mécanique, on ne doit pas manger trop sucré, parce que j'ai demandé à Guylaine de mettre un petit peu de sucré le matin
pour
le plaisir.
Beaucoup font un petit déjeuner le matin, non?
Bien sûr, mais ce n'est pas un petit déjeuner qu'il faut faire, c'est un brunch, c'est-à-dire le petit déjeuner et le déjeuner ensemble. Et ajouter au petit déjeuner, en fait, le déjeuner, comme je le racontais sur Driss qui se tape du cœur de bœuf, une quantité impressionnante, mais je l'ai dit comme ça en plus, hein, il mince comme un fil. Eh bien, manger correctement et sans arrière-pensée, si vous voulez. C'est pas je vais manger en me privant, parce que alors ça, c'est vraiment pas la bonne idée, parce qu'après, vous allez le payer dans la journée et vous allez avoir des maux de tête épouvantables. Soit je me goinfre exagérément jusqu'à ce que je sois au bord de vomir, ça c'est pas malin non plus, parce que vous allez abîmer votre corps. Donc je mange de façon satisfaisante, et d'un jour sur l'autre, je vais savoir si le jour précédent était bien ou pas. C'est pour ça que je vous ai fait cette année un ramadan qui est tous les jours, que vous allez lire chaque jour, parce que chaque jour qui passe, c'est un jour où vous aurez appris la veille les choses que vous pouvez faire et ne pas faire.
Alors Mehdi.
Oui, donc par rapport à au régime nutritionnel du docteur Delabeau, on peut le retrouver?
Vous avez le bouquin sur le ramadan. Vous le commandez. Je crois qu'à la FNAC, on doit en trouver toutes les FNAC. En principe, ils l'ont pris. Okay. Sinon, vous pouvez... vous le commandez dans les librairies, vous l'aurez. J'espère qu'Albin Michel en a édité suffisamment cette année. L'année dernière, ils n'en avaient pas édité assez. On a eu un mal de chien à en trouver. Sinon, j'en avais... C'est bête parce que j'en ai de bloqués à la maison de la Tunisie à Paris. Mais il faut que j'aille les récupérer d'ailleurs. Mais je ne sais pas comment. Écoutez, je vais essayer de me débrouiller et s'il y a une solution, on vous la donnera ce soir. D'accord, mais de toute façon, vous le trouverez dans la plupart des librairies. Hein.
Oui, oui, d'accord.
Alors, vous savez comment on fait sur Internet pour savoir où trouver le bouquin ? Vous tapez « Bien gérer le ramadan de l'été ». Vous mettez tout simplement « Ramadan de l'été ». Et vous cliquez et vous mettez « Ramadan de l'été, librairie » au pluriel. Et vous aurez la liste de toutes les librairies où il y en a.
Oui, qui le dit. D'accord. Donc, alors, en grosso modo, très bien manger le matin.
Très, très bien manger. Si vous voulez, manger léger à la rupture du jeûne et manger le plus lourd et le plus possible avant la reprise du jeûne.
C'est le repas le plus important.
Le plus important.
Voilà. Pour bien gérer son mois de ramadan et sa journée, c'est le matin qu'il faut manger. Merci, Mehdi.
Parce que vous avez... Allô ?
Oui.
Oui.
Oui, docteur Delabo, une question. Vous avez déjà fait le ramadan ?
Ah, je fais une journée du ramadan, moi, parce que figurez-vous qu'avant vous, moi, je fais le carême tous les ans. D'accord, je fais 40 jours de carême, pendant lesquels je perds 3 ou 4 kilos. Mais je fais une journée de carême avec le ramadan pour pouvoir faire l'aïd avec les copains le soir.
Eh bien, ça, c'est bien joué.
Allez. Merci,
Mehdi. Bonne journée, merci encore. Au revoir, Philippe.
Merci, Mehdi. Au plaisir. D'autres appels dans un instant, 01-53-48-3000, 01-53-48-3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Alors, notez bien que ce soir, entre 19h et 20h, dans Ramadan & Co, on parlera de la pratique du sport et du mois de Ramadan avec des coachs sportifs qui vous aideront à optimiser vos performances pendant ce mois de Ramadan, que le docteur Delabo, s'il veut être méchant avec tout le monde, sera peut-être là ce soir.
Ça dépend pas de moi, ça dépend de Guylaine. Hein.
Ah oui, je sais, j'ai bien compris. Je vais gérer ça directement avec Guylaine.
Guylaine, c'est mon épouse, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qui quand même est rare. Parce que la plupart des gens savent qui est Guylaine, dont je parle tout le temps.
Oui.
Voilà.
Ceux qui ne la connaissent pas en ont au moins entendu parler. On l'a vu dans Voici avec vous, à la une de Voici, il y a quelques mois. Docteur Delabo, une margarine qui réduirait le cholestérol. Tiens, ça c'est intéressant.
Oui, oui, ça c'est marrant. Ça, j'avoue que c'était, j'ai trouvé ça très marrant. Je l'ai pris. Alors, j'ai trouvé ça marrant, mais en même temps, ça peut être dangereux. Parce que vous pouvez vous imaginer que parce que vous mangez de la margarine, vous allez être protégé du cholestérol et vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Non, 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 mes enfants, pas du tout. Parce que cette marque célèbre qui nous annonce triomphalement que sa margarine peut réduire le cholestérol de 7 à 10, c'est du pipeau. Et en lisant ça, franchement, j'ai éclaté de rire. Parce que réduire de 0,40 grammes un cholestérol total atteignant 4 grammes le ramène à une valeur de 3,60 grammes. Ce qui veut dire que votre risque cardiovasculaire il est diminué de 0. Sans oublier qu'on ne nous annonce pas quelle est la nature du cholestérol qui va diminuer. Et ça peut être même grave, parce que si le bon diminue en même temps que le mauvais, ou s'il diminue plus vite, la diminution du risque sera égale à zéro, et même le risque sera augmenté. Alors, vous laissez pas avoir par cette bande de gredins qui cherchent à vendre n'importe
c'est
quoi.
C'est du marketing, c'est du marketing.
Oui, mais enfin, le marketing, faut pas que ça confine non plus à la gredinerie, hein. On raconte pas des blagues. Je suis désolé. Moi, je veux bien faire du marketing pour des choses honnêtes.
Employé par Macron, sa gredinerie.
Ah bon ?
Oui, gredinerie.
Il utilise le mot gredinerie.
Oh, bah, tous les mots un peu surannés, oui. Docteur Delabo, mardi.
Il a du goût pour surannés, c'est ça que tu es en train d'insinuer.
On va parler de thé mardi. Le thé, une boisson qui favoriserait le cancer de l'œsophage.
Moi, j'ai d'abord été très étonné par l'annonce. Et puis, en lisant l'article, je me suis aperçu qu'en fait, c'est parce qu'on boit le thé souvent beaucoup trop chaud, et c'est quand il est trop chaud qu'il favorise le cancer de l'estomac. Ce passage obligé des aliments étant très sensible à une forte chaleur. Bon, donc il suffira en fait de boire votre thé à une température raisonnable pour ne courir aucun risque. Ça veut dire également que si vous buvez une soupe trop chaude ou un potage trop chaud ou un truc trop chaud, le risque est exactement le même parce que votre œsophage n'aime pas qu'on le brûle au passage. Sachant que boire du thé chaud sans sucre à la rupture du jaune pendant le ramadan...
Du jeûne.
Du jaune. Pendant le ramadan, va étancher beaucoup plus vite votre soif que si vous buvez des boissons sucrées et très fraîches. Mais pour revenir à votre œsophage, sachez que pour celui-ci, même à température ambiante, tout alcool est dangereux, ainsi que le tabac et la consommation exagérée de piments divers et variés.
Mercredi, docteur Delabeau, 8 desserts dangereux au restaurant.
Oh, alors là, attendez, mes enfants. Alors, ça, c'est vraiment la grande mode du « je fais des régimes et puis je suis quelqu'un de merveilleux ». Mais non, on s'en fout des régimes. Si j'en crois le journaliste, la panna cotta, le Paris-Brest, la crème brûlée, la mousse au chocolat, la salade de fruits, la tarte au citron, les macarons et la coupe de glace seraient à supprimer des repas au restaurant. Ah bah zut, c'est tous les desserts que j'aime. C'est pas de beau. Alors, si je comprends bien, pas la peine d'en fait d'aller au restaurant. Bon, en fait, j'ai un conseil à vous donner. 1. Ne pas aller dans des usines à bouffe, comme on en voit de plus en plus fleurir un peu partout, où le mot cuisine devrait plutôt s'écrire malbouffe. Là, franchement, c'est vrai que les desserts sont dégueulasses, mais c'est parce qu'ils sont dégueulasses que je vous conseille de pas y aller. Et 2. Allez manger des fêtes, vos repas jokers dans des bons restaurants, faites-vous plaisir, pas pour faire de la diététique. Alors, peu importe que le Paris-Brest, la crème brûlée, la mousse au chocolat soient très gras, peu importe que le macaron, la coupe de glace et la tarte au citron soient très sucrés, c'est justement pour ça que je vais aller manger ces choses-là au restaurant, parce que c'est vachement agréable au goût.
Jeudi, le café responsable d'infarctus du myocarde.
Bon, rassurez-vous, le café n'est dangereux pour la santé que si on en boit trop, hein, faut pas exagérer. Et si on boit trop fort, et si on consomme la variété Robusta plutôt que l'Arabica, dont les résines sont beaucoup moins agressives pour l'accélération du rythme cardiaque. Donc, le truc, c'est, je ne bois pas des cafés trop forts, et je les bois de préférence à grosse partie Arabica, ou même toute Arabica, le Robusta, c'est vrai. Il sera en tout cas bien moins dangereux que toutes les boissons soi-disant toniques mais redoutables pour le cœur, car elles comportent une quantité dangereuse de caféine, et sans oublier éventuellement avec un tas de saletés chimiques agressives à tous les niveaux de l'organisme. Alors, buvez du thé, buvez-le raisonnablement, ne le buvez pas trop chaud pour pas vous escater le
l'œsophage. Et surtout pas sucré.
Et ne le sucrez surtout pas. Alors, ce sont des boissons à ne surtout pas boire pendant le ramadan, tous les trucs bardés de caféine, car ils activent en même temps la diurèse, c'est-à-dire qu'on fait pipi énormément après. Et tout comme il n'est pas prudent de boire une grosse quantité de thé ou de café juste avant la reprise du jeûne, car vous allez éliminer beaucoup trop vite la provision d'eau que je vous ai fait prendre dans la nuit, si vous m'avez sagement écouté, bien entendu.
Alors, vendredi, et ça c'est un sujet qui revient souvent, le curcuma, plante miraculeuse.
Alors, je suis désolé, mais vouloir faire un papier pour vanter tel ou tel produit, soi-disant miracle, en suivant la mode du moment, sans chercher à savoir si oui ou non l'annonce est sérieuse, c'est vraiment stupide de la part d'un journaliste. Ou alors, franchement, malhonnête intellectuellement. Quand je lis dans un article que le curcuma serait capable de guérir le cancer, l'Alzheimer, l'arthrose et de multiples autres affections diverses ou autres maladies, je perds franchement mon calme. Pourquoi pas pour qu'on en y ait les corps aux pieds, les hémorroïdes, la cataracte et la surdité. Attendez, il ne faut pas exagérer. Le curcuma, bien sûr, comme toutes les plantes, a des vertus, mais il a aussi des effets nocifs qui peuvent être redoutables. Donc, on n'en consomme pas les extraits en n'importe quelle quantité, on ne le prend pas n'importe quand et pour n'importe quoi. D'autant plus que la mode en sera vite passée quand on se sera aperçu que son efficacité est très contestable dans la majorité des cas et qui peut même se révéler plus nocif qu'utile. Alors, restons raisonnables.
Mais c'est une plante qui a beaucoup de vertus.
Oui, on peut en prendre, mais il ne faut pas dire que c'est une plante miraculeuse, c'est débile. Les gens vont... Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi qui suis médecin, il faut que vous compreniez. C'est que quand une nouvelle passe comme ça, énormément de gens se mettent à s'en gaver parce qu'ils s'imaginent que ça va tout guérir.
Et que plus on en prend...
Mieux ça va. Eh ben, c'est pas vrai, parce que plus on en prend, plus on augmente les risques, justement, secondaires, les effets secondaires qui peuvent être nocifs. Donc, avec raison, sans exagérer, et sans vous croire que vous allez vous sauver la vie en bouffant ce truc-là.
Et puis, on termine la semaine avec un médicament contre la sclérose en plaques, docteur Delabeau, qui serait plus dangereux qu'utile.
C'est malheureusement tout à fait vrai. La chance que nous avons en France, c'est qu'il n'a pas été pour l'instant. Il n'avait pas été autorisé en France, et il ne le sera pas. Et il est interdit maintenant en Allemagne et dans je ne sais plus quel autre pays où il avait été fait. Et avec, malheureusement, des effets redoutables et très, très dangereux. C'est hélas tout à fait vrai. Et ça me rappelle cette scandaleuse mise en place du Levothyrox soi-disant amélioré, mais ayant des effets secondaires multiples redoutables pour le bien-être des patients. Ce qui m'a choqué dans cette affaire du Levothyrox, qui a été fait par les laboratoires Merck, laboratoire américain, et ce que je trouve invraisemblable, c'est l'attitude de certains pharmaciens, de certains médecins vis-à-vis de leurs patients. Mais enfin, nom d'un chien, quand on a 1 million de fois la même plainte de gens qui se connaissent pas, qui se sont jamais vus, c'est quand même une preuve absolue que quelque chose ne va pas avec ce médicament et qu'on devrait honnêtement en tenir compte et pas traiter de nom d'oiseau certains patients qui m'ont raconté des histoires invraisemblables.
C'est-à-dire qu'on les a pas crus au départ.
Non seulement on les a pas crus, mais on les a insultés, figure-toi. Et ça, c'est inadmissible. Préparatrice en pharmacie disant « Ah, oh, mais c'est votre tête qui fait ça, vous voyez ?» T'as franchement envie d'aller leur foutre des baffes.
Vous faites bien la préparatrice en pharmacie. Hein. Je vous trouve très très bien.
On peut faire le dindon en folie aussi. Philippe est désolé là. C'est, vous savez, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce que d'un côté, il y a Zora qui est morte de rire et Philippe qui est affligé. L'affliction de Philippe et non, le sourire jusqu'aux oreilles de Zora me vont droit au cœur tous les deux.
Non, mais j'ai une de mes tendres amies qui est quand même très, 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 très connue, qui a eu le même problème sur le lévothyrox et qu'on a traité exactement de la même façon.
Oui.
Donc, ce qui veut dire que les médecins se sont comportés
comme
avec
des loupards.
Avec tout le monde, déjà.
Oui.
Je me dis, au moins, il y a une. C'est-à-dire que, voilà, quand on vous prend pour une folle, on prend tout le monde. Et c'est ce qu'ils ont fait, en l'occurrence.
Oui, bah, ils méritent des copies dans le cul, les uns et les autres, hein, je vais te dire. Parce que ça, c'est inadmissible. Ça fait 57 ans que je fais de la médecine, j'ai encore jamais
57
vu.
57 ans.
58.
Ah ouais.
J'ai encore 58 dans 4 mois, 5 mois. Puisque je suis né en 42, que je suis entré en médecine en 60, 61. Oui, c'est ça. Et donc, je suis rentré en médecine à 19 ans. Et
séquence,
ben, enfin, je regrette pas.
Séquence émotion. Le docteur de Labo vous raconte son histoire.
Non, mais, séquence émotion, c'est que j'ai commencé mes études de médecine après avoir assisté ma maman jusqu'à ses derniers jours. C'est ça, la séquence émotion.
Bon, ben, merci de le partager avec nous.
Oui, ça me fait plaisir.
De Labo, parce que
je n'ai jamais oublié de ma vie.
Bon, vous serez peut-être là ce soir, d'ailleurs, docteur de Labo.
Si Dieu me prête vie, et si Guylaine consent à ce que je vienne.
Ça fait beaucoup de choses, finalement. Mais on trouvera un moyen de vous avoir. Ce soir, alors, on parle de sport, pratique du sport et du mois de Ramadan, parce qu'il y a une mode. Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter du mois de Ramadan pour optimiser vos performances. On en parle ce soir, docteur Delabon, on ne fait pas l'émission avant. En tout cas, on donnera des conseils, et en tout cas, des conseils à suivre pour justement pratiquer le sport comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis, il y a ceux qui, du coup, parce que c'est le ramadan, ne font plus rien du tout. En fait, il y a les deux cas. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a plein de petits nouveaux qui nous rejoignent pendant le mois du Ramadan. Vous pourrez écouter tout à l'heure à 13h20 Karima Chadibaou pour ses comptes du Ramadan. Vous avez Steve Abdelkarim qui est là. Qui est là 30 jours pour changer. Steve Abdelkarim qui est la star des coachs et qui était avec nous pour la deuxième saison de 30 jours pour changer que vous retrouvez à 13h50. Va y avoir du sport avec coach Redouane qui sera là ce soir d'ailleurs 14h20 et puis dis-moi Alain et Emma et le docteur Delabo à 15h20. Passez un très très beau Ramadan sur Beurre FM. À tout à l'heure.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.